La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Libre Ensemble, Catherine Axe, Jacques Nizin.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à vous qui nous êtes fidèles, bienvenue dans Libre Ensemble. Alors ensemble, nous sommes pour 30 minutes de débat débridé, libre, engagé et aux couleurs de l'Afrique ce soir, ou plutôt de l'homme blanc dont l'Afrique n'aurait plus besoin. Dialogue cinglant, humour noir, atmosphère moite et oppressante, on vous parle de la pièce de Rémi DeVos dans une mise en scène de notre compatriote Frédéric Dussen. La pièce s'appelle Botala Mindele, par le Théâtre du Rideau au Théâtre de Poche jusqu'au 14 octobre. Alors en distribution, il y a Priscilla Adadé, Valérie Beauchaud, Stéphane Bissot, Philippe Josette, Benoît Van Dorslar, je le dis bien, Hansok Diediou et Jérémy Zagba.
Bissona Bissot, Ozali Bandeko, Bissona Bissot, Ozali Bandeko, Ena Bissot, Ozali Bandeko, Bissona Bissot, Ozali Bandeko.
Voilà, bienvenue dans Libre Ensemble. Nous vous invitons à vivre une débandade néocolonialiste sur fond de huis clos tropical. Et ce sera pour nous aussi l'occasion de se questionner sur les conséquences de la période coloniale et la transmission de cette mémoire familiale et collective. Une histoire dont nous avons été privés dans nos manuels scolaires, car elle fait souvent honte, mais continue de fasciner. Avec moi ce soir, pour parler de tout cela, j'ai le grand plaisir de recevoir Frédéric Dussen. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Alors, acteur et metteur en scène belge de cette pièce Botala Mindele. Jérémy Zagba, comédien et musicien.
Bonsoir.
Bonsoir Jérémy, bonsoir. Je dis musicien parce que vous avez composé les musiques de cette pièce Botala Mindele, on va en reparler. Et enfin Calvin Suarez, bonsoir Calvin.
Bonsoir.
Vous êtes-vous coordinateur du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations et vous nous donnerez votre point de vue un petit peu en hauteur sur la thématique de cette pièce. On écoute un premier extrait pour se mettre tout de suite dans le bain.
Louis !
Ben, s'il te plaît.
Régale-moi.
Prépare le dîner, peux-tu pas la laisser tranquille ?
Phrase extraordinaire. Si on ne peut plus déranger les domestiques.
Louis, je n'ai pas une domestique.
Ah non ? Figure-toi qu'elle est payée pour t'aider. Accessoirement, c'est moi qui la paye. Elle doit faire vivre une douzaine de personnes avec l'argent que je lui donne. C'est sans doute trop lui demander de sortir quand il pleut.
Pour ce qu'elle te coûte.
Elle submergée de travail ? Dis-moi. Elle aurait à se plaindre de quelque chose. Tu penses que je devrais l'augmenter?
Mais elle a plus de travail depuis qu'Isaac n'est plus là.
Isaac n'avait qu'à surveiller la rue et ouvrir la porte, c'est à peu près tout.
Il faisait aussi les courses.
Exact. Et il en profitait pour disparaître pendant des heures. Le temps qu'il lui fallait pour vendre ce qui nous dérobait.
Voilà un premier extrait de la pièce Botala Mindele. On est dans un appartement un peu bourgeois, en Afrique. Un couple est en train de se disputer, ou en tout cas, on sent que l'atmosphère est tendue. Il pleut. Alors, c'est le début de quelle histoire, Frédéric Dussen? En quelques mots, ça parle de quoi, Botala Mindele?
Bon, ça parle évidemment des rapports de force, non, de toutes sortes, et notamment évidemment entre l'Afrique et l'Europe, et puis entre l'Afrique et la Chine, parce que la Chine finit par prendre la place de l'Europe dans la domination économique en Afrique. C'est aussi l'histoire des rapports de force entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les vieux, entre les grands bourgeois, les petits bourgeois et le peuple. Enfin, c'est toute une série de rapports de force qui s'articulent. Et s'il faut résumer la pièce, je dirais que la première partie, c'est un dîner de cons. À peu près ça. C'est-à-dire que le bourgeois le plus élevé, qui est manifestement très proche du pouvoir congolais à Kinshasa, qui fait des affaires dans les chantiers publics, décide d'inviter un brave type qui vient d'arriver en Afrique, qui n'y connaît rien, et qui veut faire des affaires au Congo sur le caoutchouc. Alors j'imagine que tu vois ce que ça peut vouloir dire, parce qu'évidemment le caoutchouc est légendaire comme étant... une des causes des atrocités les plus épouvantables qui ont été commises à l'époque de Léopold II. Donc c'est évidemment la pire idée imaginable.
Et c'est le type essaye
de lui faire croire qu'il va le faire entrer, rencontrer le ministre et qu'il va l'aider. Et en fait, c'est un prétexte à faire un dîner de cons. Donc c'est à donner en spectacle ce type et à se foutre de lui. Sa femme est avec lui, qui elle est vraiment une femme du peuple et qui a des idées un peu idéalistes. Elle rêve de l'Afrique, de l'aventure. Enfin, elle arrive avec tout ça. Et ils sont primordialement...
Plein de bonnes intentions, en fait.
Oui, voilà. La femme du grand bourgeois est dans une position délicate parce
qu'elle a... Mathilde, jouée par Valérie Beauchaud.
Valérie Beauchaud. Parce qu'elle a une domestique qui s'appelle Louise et qui pour elle est plus qu'une domestique. Il y a un rapport affectif qui s'est lié entre eux. Ils vivent là depuis 30 ans. Elle est là depuis 2 ans et demi. Et ça touche à l'amour, ça touche au désir, ça touche à tout. Et donc il y a quelque chose qui est déchirant pour elle. Et donc elle est en conflit ou en opposition avec son mari qui a une tendance au cynisme bien appuyé, qui est donc joué par Philippe Joset. Et donc c'est tous ces rapports-là qui... Alors la deuxième partie, c'est une leçon d'Afrique. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils viennent au deuxième dîner... Hein, ils sont invités une deuxième fois, mais cette fois-là, le délégué du ministre vient. Il ne vient pas pour eux, en fait. Il vient pour le couple dominant. Mais, de nouveau, le dominant essaye de faire croire à l'autre que c'est pour lui que l'autre arrive, etc. Et donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que le responsable politique en question, africain, congolais, vient pour annoncer aux bourgeois dominant que le contrat qu'il avait avec l'État congolais est passé aux Chinois. Et donc, c'est l'arrosoir arrosé, quoi.
Alors, vous connaissiez bien le texte et la langue de Rémi DeVos. Vous avez mis en scène Occident,
oui.
Précédemment. Ce qui est amusant, c'est quand Rémi DeVos, à la fin d'une centaine de représentations d'Occident, vous apprend qu'il est en train d'écrire un texte sur le Congo. Là, vous lui dites... Bah, c'est pour nous, c'est pour nous les Belges, c'est pour moi. Laissez-moi monter cela, Rémi, s'il vous plaît. Comment ça se passe
à ce moment-là ? C'est même assez tôt, hein. C'est pas à la fin de la série. Il est venu au début et je lui dis qu'est-ce que tu écris ? Il m'a dit mais j'écris une pièce sur le Congo pour une compagnie française. J'écoute ça, c'est quand même un tout petit peu difficile à accepter pour nous. Donc je voudrais quand même bien la lire, quoi. C'est pas possible que tu ne donnes pas l'occasion de lire ça. Quand je l'ai lu, je dis bon, écoute, on doit le faire, faut que nous on le fasse. Il y a eu des tribulations. Finalement, on avait décidé qu'on ferait, nous, une production belge, que les Français feraient une production française. Mais alors, la production française a périclité et Rémi nous a donné les droits exclusifs. Donc, on a fait la création mondiale hier soir. C'est un texte que moi, je trouve terriblement important et qui a quand même connu 7 versions successives. Donc, il a pris le temps de raffiner cette chose. Et je pense que c'est un texte qui en dit beaucoup sur nous, en fait.
Sur une histoire, finalement, qu'on a effacée de nos manuels.
Mais alors, il le dit... un peu par défaut, c'est-à-dire par le biais de la comédie, c'est-à-dire du ridicule, quoi.
Oui, c'est une pièce bourrée d'humour, un texte en tout cas bourré d'humour aussi.
Oui, 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 ben oui, il y a beaucoup d'humour, un humour qui est parfois franchement agressif, hein, on rit et puis on a un peu honte de ce dont on a ri, parce qu'il y a un humour raciste, hein, il faut quand même le dire, il y a des choses assez violentes dans le texte. Et donc on rit parce qu'on peut pas s'empêcher de rire et en même temps il y a un moment où ça fait...
Justement, comment on met en scène un texte, une écriture si puissante et singulière avec une thématique qui est quand même tragique, tragicomique mais surtout tragique?
C'est tout l'enjeu. Il faut pas que le texte devienne le positif de la photo. Il faut que le texte soit le négatif de la photo. La vérité, c'est les personnes qui sont là, qui sont prises à ces choses-là. Et donc c'est le silence en fait qui compte le plus dans ce genre de travail. Parce que c'est là qu'on perçoit l'obscurité, la complexité des rapports qui s'établissent entre ces gens. Et donc on arrive à ce moment-là à rire d'eux parce qu'on se rend compte qu'ils sont humains, voilà, tristement ou modestement humains, et que donc ils disent des conneries comme tout le monde. Et ces conneries sont révélatrices, évidemment, des rapports de force et de ce que Genet appelait ce qui reste en nous du blanc. Genet disait que le blanc c'était une catégorie, que c'était pas une couleur de peau, que c'était une catégorie dominante, et qu'il fallait le tuer à l'intérieur de nous, il fallait le tuer. Et dans la pièce, le blanc circule entre des personnages qui ont la peau blanche et des personnages qui ont la peau noire. L'esprit blanc, c'est de ça qu'il s'agit. Et le titre, c'est Botala Mindele. Donc, regarde l'homme blanc.
Qu'est-ce que ça veut dire, Botala Mindele,
regarde l'homme blanc, regarde le blanc, en lingala, qui est un dialecte parlé à Kinshasa essentiellement. Enfin, pas essentiellement, mais enfin, qui est fortement parlé à Kinshasa. Et donc, c'est un regard sur la blanchité, on va dire. Enfin, quelque chose comme ça.
Est-ce que vous pensez que le théâtre, justement, doit se mêler de politique, d'histoire et de notre double histoire belgo-congolaise ?
Alors, je vais répondre en deux temps. Mm-hmm. Je crois que le théâtre ne peut pas échapper à la politique, parce que c'est un rassemblement. Et à partir du moment où c'est un rassemblement public, il y a quelque chose de politique. Donc après, ce qu'on raconte aux gens quand ils viennent, c'est ça la question. Moi, je considère que s'ils viennent, autant essayer de les bousculer un peu, plutôt que de les caresser dans le sens du poil, autant leur amener quelque chose d'un peu corsé, qui a un peu de goût. Alors oui, parler de l'histoire coloniale, oui, ça me paraît fondamental, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle n'est pas dans nos livres d'histoire. Moi, je suis né en Belgique, j'ai été éduqué, élevé dans l'école officielle belge. Je n'ai pas beaucoup entendu, j'ai entendu parler du Congo, mais je n'ai pas entendu beaucoup parler des circonstances de la colonisation, de la manière dont l'indépendance s'est faite, dont ce qui s'est passé après les indépendances, parce que c'est ça qui est, dans cette pièce-ci, très intéressant, c'est à quel endroit il reste encore des rapports étranges entre la Belgique et le Congo, presque plus de 40 ans, 50 ans après les indépendances. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de terrifiant. Ça veut dire qu'une chose n'est pas réglée et qu'en même temps, de l'autre côté, des liens presque consanguins se sont tissés entre les gens de ces deux pays qui font que... Il y a un petit morceau de la Belgique dans le Congo et un petit morceau du Congo dans la Belgique. C'est très compliqué, ça se mélange, voilà.
Justement, Calvin Soares, vous qui êtes coordinateur du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, important, essentiel pour vous que le théâtre ou toute forme d'art puisse raconter cette histoire et enfin la mettre à jour?
Bien sûr, je pense que c'est très important dans la mesure où ce dont on se rend compte, c'est que cette histoire est assez émotionnelle auprès de beaucoup de gens, comme Frédéric le disait, dans la mesure où il faut dire que si on va dans les greniers des familles, dans les caves des familles, et quand on va, quand nous faisons nos visites guidées des coloniales, dans les tréfonds des cœurs des gens, finit par ressurgir cette histoire. Je suis né à Lubumbashi, j'y ai grandi, j'ai encore la nostalgie, je veux y retourner, mais j'ai du mal. Il y a toujours cette envie de faire ressurgir ça. Alors le théâtre est un catalyseur. La musique l'a longtemps été, surtout du côté congolais. C'est quelque chose qui permet de sortir de manière tout à fait ludique ce qui pourrait être sorti de manière violente. Et donc, aller au théâtre pour parler de cette histoire, c'est important. Et il y a une autre pièce dont nous sommes partenaires, Colonialoscopy, qui passe actuellement et qui aussi raconte cette histoire. Donc, il y a un mouvement d'ensemble dans le théâtre et dans les arts qui est en train de ressurgir. C'était déjà le cas au Congo et en Afrique en général. C'est de plus en plus le cas ici. Et ça, c'est positif, oui.
Travail de mémoire, travail de décrispation, de réconciliation, je dirais. Est-ce que la Belgique est raciste? Est-ce qu'il y a encore du racisme en Belgique?
Bien sûr, comme partout dans le monde. Maintenant, il faut, en fait, la question du racisme remonte à très loin, à l'esclavage, et même lorsque le pape a décidé par cette bulle pontificale que les âmes et les noirs n'avaient pas d'âme. Donc ça veut dire que pour régler un problème de racisme, il faut retourner à l'origine. Pour régler un problème de xénophobie, il faut retourner à l'origine. Dès cette période, et encore pire au moment de Léopold II, il y a eu toute une propagande qui a été montée. Donc cette propagande, les gens, parce que je dis que les gens en ont été victimes. Ici en Belgique, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au début, les gens étaient contre la colonisation. Pas par humanisme, mais tout simplement parce qu'ils pensaient que c'était un gouffre financier. Et donc, les gens ont été victimes de cette propagande, comme les Congolais ou les Africains. Parce qu'aujourd'hui, l'aliénation mentale, elle est des deux côtés. Elle n'est pas seulement du côté congolais ou africain. Elle est ici aussi, on doit libérer les gens de cette aliénation. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas complètement désaliéné. J'essaye au jour le jour de travailler sur cette aliénation et de faire en sorte que la mémoire, avant d'arriver à la réconciliation de la mémoire, il faut une mémoire partagée. C'est-à-dire une mémoire où on peut ne pas être d'accord parce qu'on n'a pas vécu la chose de la même façon, mais qu'on peut en discuter et qu'on peut débattre dans la société comme de toutes les questions de manière posée et qu'on puisse se dire à la fin, on n'est pas venu pour se convaincre, mais on est venu pour s'écouter. C'est la première étape avant d'arriver à la réconciliation des mémoires. Sinon, on n'y arrive pas. Et le problème, c'est que chez les jeunes, il y a deux façons de réagir. C'est pour ça que le théâtre et l'art est aussi très expressif. Des rappeurs comme Pitcho, comme Badi ont fait un très bon album qui s'appelle Héritage, où ils expriment ce qu'ils ressentent. Et en fait, du côté des blancs, entre guillemets, parce qu'on sait très bien que nous ne sommes pas blancs, cette feuille est blanche, vous ne l'êtes pas. Du côté des blancs, chez les jeunes, il y a encore cette culpabilité. On entend toujours des gens qui ont moins de 60 ans dire « Moi, je n'ai rien à voir avec cette histoire, je n'y étais pas ». Ils ont tout à fait raison. Mais ce que notre mouvement et d'autres disent, c'est que ce n'est pas ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est simple, c'est que ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas la nôtre non plus. Simplement, maintenant, il faut savoir ce qu'on veut faire de cette histoire ensemble. C'est de là que vient notre responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire de cette histoire ensemble aujourd'hui ? Qu'on assume ce qui s'est passé et qu'on en fasse quelque chose de positif demain. L'État doit faire son travail de reconnaissance, doit présenter des excuses s'il l'estime légitime, mais nous, nous pensons que c'est à l'État de faire ce travail parce qu'il est le continuateur de l'État qui a existé avant et qui a mené cette politique. Les citoyens n'en sont pas responsables aujourd'hui. Et de l'autre côté, il faut aussi qu'il y ait un travail d'expression. Parce que beaucoup de choses sont enfouies pendant longtemps, et il faut savoir que les grands-parents et les parents ont eu du mal à transmettre cette histoire familialement. Et à l'école, quand on ne l'enseigne pas ou pas assez bien, aujourd'hui avec Internet, les jeunes le découvrent par eux-mêmes. Et là, ils le reçoivent assez violemment. Et c'est de là que vient ce qu'il y a appelé, je termine par là, sur cette question, ce qu'il y a appelé la désaffiliation citoyenne, qui fait que des jeunes d'origine africaine peuvent sortir leur carte d'identité et vous dire « Moi, je ne suis pas belge. Tu me dis de m'ancrer dans ma citoyenneté ici, mais je ne me sens pas belge dans la mesure où le pays qui est le mien ne reconnaît même pas le lien historique,
ne me reconnaît pas
dans mon essence historique qui m'unit à lui. Donc, pourquoi est-ce que je vais me sentir belge ?» C'est ça le travail que nous faisons. Je pense que c'est vraiment, avec ce qu'on a vu à Charlottesville et un peu partout, je pense que ce sera l'une des grandes questions de demain, en termes d'identité et en termes de citoyenneté.
Vous parlez du rap comme vecteur de transmission et d'histoire. Justement, Jérémy Zagba, vous signez la musique de cette pièce Bota Lamine Dele qui se termine par un morceau de rap. C'était pour vous une façon de clore le débat en faisant un clin d'œil à cette autre forme artistique qu'est le rap chez les jeunes aujourd'hui ?
C'est une proposition que Frédéric m'a faite de m'exprimer par rapport à ma noirceur, en gros, en Belgique en 2017 pour un jeune de 23 ans.
Je dirais à ma négritude.
Ma négritude, c'est ça. Mais moi, je l'appelle noirceur, parce que négritude était déjà fort employée. Et en fait, c'était très intéressant ce que disait Calvin. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement, une atmosphère où ma couleur de peau n'a pas été un problème. À l'école, quand j'étais petit, j'ai pas eu de soucis. Donc, j'étais dans une classe où j'avais des Arabes, des Indiens, n'importe quoi, enfin, tout le monde. Et du coup, on a eu cette chance-là d'être né en Belgique. Et c'est pour ça que dans le texte que Frédéric m'a fait écrire, en fait,
le texte du rap.
Le rap de fin, j'exprime qu'en fait, je me sens belge. Je me sens belge, noir, mais je suis né ici. Je suis né à Bruxelles, j'ai pas demandé à être né ici. Du coup, je suis belge. C'est sur ma carte d'identité en plus, donc y a pas de souci. Et donc, je pense que c'est ça. Chez les jeunes, on a l'habitude de grandir tous ensemble et voilà quoi.
Alors, Jérémy, on vous a vu dans La Trêve, ouais, sur la RTBF. Vous rêviez d'être footballeur. Bon, pas de chance, vous êtes comédien, ça alors. Et musicien, donc, on vient de le dire. Et j'ai envie de dire que dans la pièce Bota Lamine Dele, vous avez presque le rôle titre. Bota Lamine Dele, si on traduit ça comme le disait Frédéric Dussène, regarde l'homme blanc. Or, vous, vous jouez Panthère. Et Panthère est un personnage qui ne cesse d'observer l'homme blanc, les hommes blancs évoluer, qui installe une caméra. Ça, on en parlera avec Frédéric Dussène dans la mise en scène. La vidéo a une place importante. Vous ne cessez d'observer. Et puis, à un moment donné, Mathilde, la bourgeoise, se sent observée et vous interpelle. On écoute cet extrait.
Tu as besoin de quelque chose, Victor ?
Panthère.
Oui, Panthère. Comme tu veux.
Je te regarde.
C'est un peu dérangeant la façon dont tu as me regardé, Panthère.
Tu me regardes aussi ?
Je te regarde, bien sûr. Évidemment. Tu n'es pas à mon...
Quand je fais du sport, tu regardes mon corps. Tu regardes mes muscles.
Là, je te trouve un peu présomptueux. Je ne suis pas absorbée dans la contemplation de tes muscles.
Je sais quoi, une femme me regarde.
Ah oui ? Mais qu'est-ce que ça fait ? Une femme te regarde, elle te regarde.
Elle me regarde comme tu me regardes, toi.
Alors voilà, Panthère, Jérémy Zagba, c'est amusant parce que c'est finalement Panthère qui règle les premiers comptes avec ce couple blanc. Et c'est presque là, Frédéric Dussène, que la pièce se retourne et que finalement, le pouvoir de l'homme noir va prendre le pas sur le pouvoir de l'homme blanc. C'était pour Rémy DeVos une gageure, ça, ce renversement.
Oui, ça se passe par l'intime, hein. C'est-à-dire par il entre par une brèche, il y a un manque affectif, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce couple et tout, et donc ils entrent parce qu'on pourrait dire la même chose du personnage de Louise, ils entrent par la brèche ouverte, par ce manque. C'est d'ailleurs presque les derniers mots de Louise, hein, quand Mathilde lui dit tu vas me manquer, elle dit c'est tout ce que je peux vous offrir. Et donc cette espèce de manque, ce vide qui est peut-être le seul espoir, c'est-à-dire qu'il y a une faille, il y a quelque chose qui peut-être, mais dans la pièce on peut pas dire que ça se résout, mais disons qu'il y a quelque chose qui, quand on est un peu ouvert, on peut commencer à éventuellement dialoguer, mais il faut que chacun assume une part de fragilité, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence à la fin de la pièce des deux personnages africains, des deux jeunes personnages africains, qui eux au contraire prennent véritablement le pouvoir. Mais donc c'est l'histoire, même si le mot est un peu fort, mais c'est de la pénétration d'une intimité. Et la maison d'ailleurs finit par exploser complètement. Et c'est cette pénétration d'intimité qui est relayée par la perte de domination de l'Europe occidentale au niveau géopolitique, quoi.
Toujours ces allers-retours entre l'amour, l'émotion, et puis la haine, et puis la domination, l'envie de dominer, oui, de l'homme blanc, qui termine effectivement en débandade.
Oui, ça finit pas bien. Sauf qu'on sent que le Ruben, donc le personnage un peu central, on sent qu'il va se refaire d'une façon ou d'une autre, parce qu'au fond de tout ça, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, on parlait de ce qui nous déchire et de ce qui... Mais moi, j'ai quand même envie de rappeler que le capitalisme européen, qui naît au XVIe siècle, puis se développe très fort au XVIIIe et avec la révolution industrielle, a appuyé sa réussite sur l'esclavage. Donc c'est une chose très ancienne qui vient et qui est complètement occultée, hein. On n'en parle pas. On parle de la réussite capitaliste, mais en fait, elle repose sur une main-d'œuvre bénévole. Donc, évidemment qu'il y a des plus-values. S'il y a des tas de bras qui travaillent pour rien, forcément, ça marche. Mais ça a reposé là-dessus, et c'est tout à fait historique. C'est occulté, par exemple, par Adam Smith et sa théorie de la main invisible et de la liberté du marché. On oublie complètement que même à l'époque d'Adam Smith, il y avait encore utilisation de l'esclavage pour faire fonctionner le capitalisme, pour procurer de la plus-value. Donc la pièce aussi ne fait pas l'impasse là-dessus. La pièce se termine sur la question de l'argent. Hein, la dernière question qui est posée par Mathilde à Louise, c'est une question un peu obscène. C'est « Tu veux de l'argent ?» Et elle répond « Madame, qui répond non ?» Donc la pièce se clôt sur cette question-là, parce que les rapports de force sont avant tout des rapports d'intérêt, des rapports de domination économique. Et donc, toutes ces choses-là sont liées et elles font partie du problème et donc elles font aussi partie de la solution.
Alors, on a rencontré lors de la première Rémy DeVos, qui est l'auteur de ce texte Botala Mindele. Il nous parle de la genèse de ce projet.
À l'origine, je suis parti avec un metteur en scène qui m'a proposé, qui est marié à une Congolaise, qui m'a proposé d'accompagner à Kinshasa, un endroit qu'il connaissait, dans l'idée d'écrire un texte. Et puis finalement, ça s'est pas fait avec lui, parce que, pour toutes sortes de raisons, mais j'ai écrit comme ça, en sachant que j'écrirais sans doute un texte en revenant. Bon, moi j'ai tendance à écrire, donc, c'était... Oui, moi j'écris souvent des choses un peu... J'imagine un peu franco-française, ou c'est des histoires de couple, ou des choses. L'idée de partir si loin d'Afrique noire que je connaissais pas et d'écrire là-dessus, c'était une formidable opportunité de parler du monde. Et c'est vrai qu'en voyant ces Chinois en Afrique, c'est tout bête, mais ça m'a, c'est idiot d'ailleurs, parce que, pourquoi non, mais comme il y a une vraie présence et en discutant, j'ai pensé à cette histoire de cette venue de la puissance des Chinoises en Afrique, qui est évidente, hein, ça se voit. Et donc la pièce est venue un peu comme ça.
Calma Soares, c'est l'histoire de la langue qui a été imposée là-bas au Congo. C'est ce qu'on dit aussi dans la pièce, c'est que les Chinois qui, eux, arrivent, n'ont rien imposé. Ni leur religion, ni leur langue, rien du tout. Et donc, c'est aussi tout ce rapport de rejet de la part du Congo sur la
Ils vont encore plus loin, ils utilisent l'histoire. Ils viennent, ils disent, nous aussi nous avons été colonisés par les Japonais, nous avons subi des horreurs, nous savons ce que c'est. Et eux, à la différence des Occidentaux, ils vivent dans des quartiers pauvres. Même si on en voit maintenant dans des quartiers riches, ils vivent avec des gens du peuple. Et donc, au départ, il y a eu cette image du Chinois qui nous ressemble un peu, qui est un peu de notre condition. Maintenant, c'est un peu en train de changer parce qu'on est en train de les voir partout, prendre des marchés, y compris ceux des petits commerçants. Et là, ça commence à causer un souci. Mais au-delà de cela, je pense que ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est aussi de voir le système colonial, parce que l'esclavage est la fille du capitalisme, le paternalisme est la fille le fils du colonialisme. Il faut voir que nos États ici, la Belgique m'a adopté, donc je suis très clair là-dessus, sont en train de commettre une grave erreur qui vient de cette aliénation. C'est-à-dire que quand on voit, je dis toujours que la colonisation, c'est comme une valise à code. J'ai ma valise, je sais ce qu'il y a dedans, je sais comment elle fonctionne. Quelqu'un vient de 10 000 kilomètres, il m'arrache ma valise avec un canon, un fouet, et il m'impose sa valise sans me donner le code pour que je puisse l'ouvrir pour prendre ce qu'il y a dedans. Donc on impose la langue, on impose des cultures, on impose un certain nombre de choses, on impose parfois des chefs d'État, et puis on ne permet pas à ces peuples de pouvoir s'émanciper. Et moi je dis, si ça continue comme ça, effectivement l'Europe va perdre toutes ses parts, dans la mesure où ce qui se passe, c'est que les chefs d'État ici croient que s'ils ont un rapport gagnant-gagnant d'égal à égal avec les Africains, le niveau de vie de leurs habitants ici va diminuer dans la mesure où les affaires et tout ça, ça se passe là-bas. Ça arrivera un jour. Mais le problème, c'est que à partir du moment où vous n'aurez pas traité votre ami ou celui avec qui vous traitiez d'égal à égal, le jour où il aura son émancipation et où il aura son pouvoir, ou alors par l'intermédiaire des Chinois qui vont les remplacer, ce ne sera plus la même chose. Et donc, on doit aujourd'hui revoir le système de la coopération, le système des affaires, etc.
De quoi vous discutez ? La démocratie ? De quelle démocratie parle-t-il ? Les voix s'achètent avec des financements acquis auprès de bailleurs de fonds auxquels les candidats se montrent obéissants. Tu veux parler de quoi ? L'ouverture du marché ? Notre taux de croissance dépend du cours des matières premières. C'est nous qui le fixons. De quoi veux-tu parler ? De la dette ? La masse monétaire que nous sommes censés devoir a déjà été remboursée 100 fois, Ruben ! 100 fois !
Voilà, dernier extrait de cette pièce pour vous donner l'envie, une pièce à voir absolument pour réfléchir sur ce thème délicat du néocolonialisme, des relations entre blancs et noirs dans le Congo d'aujourd'hui, tandis que l'Occident continue de se présenter vertueux tout en soutenant des dictateurs pour sauver ses intérêts. Botala Mindele au Théâtre de Poche de Bruxelles jusqu'au 14 octobre. Merci à nos trois invités d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles. Encore vous annoncer la tenue du premier salon du livre laïque au château de Senef, c'est 23 et 24 septembre. Le livre Penseur, une initiative de la Maison de la Laïcité. Voilà, bonsoir à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.
En quête de sens
sur la première.